Aristote, Métaphysique, livre 10, chapitre 6 à 10. Chapitre 6. On peut se poser la même difficulté relativement à l'unité et à la pluralité. En effet, si la pluralité est opposée absolument à l'unité, il en résulte des difficultés insurmontables. L'unité sera alors le peu ou le petit nombre, puisque la pluralité est opposée aussi au petit nombre. De plus, 2 est une pluralité, puisque le double est multiple. C'est dans ce sens que 2 est double. L'unité est donc le peu, car relativement à quoi 2 serait-il donc une pluralité, si ce n'est relativement à l'unité et au peu. Il n'y a rien qui soit moindre que l'unité. Ensuite, il en est du beaucoup et du peu dans la multitude, comme du long et du court dans les longueurs. Ce qui est beaucoup est une pluralité. Toute pluralité est beaucoup. À moins donc qu'il ne s'agisse d'un continu indéterminé, le peu sera une pluralité, et alors l'unité sera elle aussi une pluralité, parce qu'elle est un peu. Cette conséquence est nécessaire si 2 est une pluralité, mais on peut dire que la pluralité est la même chose que le beaucoup dans certaines circonstances, et dans d'autres non. Ainsi, l'eau est beaucoup. Elle n'est pas une multitude. Dans toutes les choses qui sont divisibles, beaucoup se dit de tout ce qui est une multitude excessive, soit absolument, soit relativement à autre chose. Le peu est une multitude en défaut. Multitude se dit encore du nombre, lequel est opposé seulement à l'unité. On dit unité et multitude dans le même sens qu'on dirait une unité et des unités, blanc et blanc avec un S, mesuré et mesure ou mesurable. Et dans ce sens, toute pluralité est une multitude. Tout nombre, en effet, est une multitude parce qu'il est composé d'unités, parce qu'il est mesurable par l'unité. Il est multitude en tant qu'opposé à l'unité, et non pas au peu. De cette manière, 2 même est une multitude, mais ce n'est pas en tant que pluralité excessive, soit relativement, soit absolument. 2 est la première multitude. 2 est le petit nombre absolument parlant, car c'est le premier degré de la pluralité en défaut. Anaxagore a donc eu tort de dire que tout était également infini en multitude et en petitesse. Au lieu de « et en petitesse », il fallait dire « et en petit nombre ». Et alors, il aurait vu qu'il n'y avait pas infinité, car le peu, ce n'est pas, comme quelques-uns le prétendent, l'unité, mais la dyade. Voici en quoi consiste l'opposition. L'unité et la multitude sont opposées dans les nombres. L'unité est opposée à la multitude, comme la mesure à ce qui est mesurable. D'autres choses sont opposées par relation. Ce sont celles qui ne sont pas relatives essentiellement. Nous avons vu ailleurs qu'il pouvait y avoir relation de deux manières. Relation des contraires entre eux et relation de la science à son objet. Une chose, dans ce cas, est dite relative en tant qu'on lui rapporte autre chose. Rien n'empêche toutefois que l'unité ne soit plus petite que quelque chose, par exemple que 2. Une chose n'est pas peu pour être plus petite. Quant à la multitude, elle est comme le genre du nombre. Le nombre est une multitude mesurable par l'unité. L'unité et le nombre sont opposés, non point à titre de contraire, Mais comme nous avons dit que l'étaient certaines choses qui sont en relation. Ils sont opposés comme étant l'un la mesure, l'autre ce qui peut être mesuré. C'est pourquoi tout ce qui a en soi l'unité n'est pas nombre. Par exemple, si c'est une chose indivisible. La science est dite relative à son objet, mais la relation n'est pas la même que pour le nombre. Sans cela, la science aurait l'air d'être la mesure et l'objet de la science, ce qui est mesuré. Il est bien vrai de dire que toute science est un objet de connaissance, mais tout objet de connaissance n'est pas une science. La science est sous un point de vue mesuré par son objet. Quant à la pluralité, elle n'est pas le contraire du peu. C'est le beaucoup qui est opposé au peu, comme la pluralité plus grande opposée à une pluralité plus petite. Elle n'est pas non plus dans tous les cas le contraire de l'unité. Mais ainsi que nous l'avons vu, l'unité peut être considérée comme divisible ou indivisible. On peut la considérer encore comme relative, de la même manière que la science est relative à l'objet de la science. Soit la science un nombre, l'objet de la science sera l'unité, la mesure. Chapitre 7. Puisqu'il est possible qu'entre les contraires il y ait des intermédiaires, et qu'il y en a réellement dans quelques cas, il faut nécessairement que les intermédiaires proviennent des contraires, car tous les intermédiaires sont dans le même genre que les objets dont ils sont les intermédiaires. Nous appelons intermédiaires ce en quoi doit nécessairement d'abord se changer ce qui change. Par exemple, si l'on veut passer graduellement de la dernière corde à la première, on passera d'abord par les sons intermédiaires. De même pour les couleurs. Si l'on veut passer du blanc au noir, on passera par le rouge et le brun avant d'arriver au noir. De même pour tout le reste. Mais il n'est pas possible qu'il y ait changement d'un genre à un autre si ce n'est sous le rapport de l'accident, ainsi qu'il y ait changement de la couleur en figure. Il faut donc que tous les intermédiaires soient dans le même genre les uns que les autres, et dans le même genre que les objets dont ils sont intermédiaires. D'un autre côté, tous les intermédiaires sont intermédiaires entre des opposés, car c'est entre les opposés seuls que le changement peut s'opérer. Il est donc impossible qu'il y ait des intermédiaires sans opposés. Sinon, il y aurait un changement qui ne serait pas du contraire au contraire. Les opposés par contradiction n'ont point d'intermédiaire. La contradiction est en effet l'opposition de deux propositions entre lesquelles il n'y a pas de milieu. L'un des deux termes est donc nécessairement dans l'objet. Les autres oppositions sont la relation, la privation, la contrariété. Toutes les choses opposées par relation et qui ne sont pas contraires, n'ont pas d'intermédiaire. La cause, c'est qu'elles n'appartiennent pas au même genre. Quel intermédiaire y a-t-il en effet entre la science et l'objet de la science? Mais il y en a un entre le grand et le petit. Si donc les intermédiaires appartiennent au même genre, comme nous l'avons montré, s'ils sont intermédiaires entre les contraires, il faut nécessairement qu'il soit composé de ses contraires. Car, ou les contraires ont un genre, ou ils n'en ont pas. Si le genre est quelque chose d'antérieur au contraire, les premières différences contraires seront celles qui auront produit les contraires à titre d'espèce dans le genre. Les espèces se composent en effet du genre et des différences. Par exemple, si le blanc et le noir sont contraires, et l'un est une couleur qui fait distinguer les objets, l'autre une couleur qui les confond. Ces propriétés de faire distinguer ou de confondre les objets seront les différences premières. Ce seront donc les premiers contraires. Ajoutons que les différences contraires sont plus contraires entre elles que les autres contraires. Les autres contraires et les intermédiaires seront composés du genre et des différences. Par exemple, toutes les couleurs intermédiaires entre le blanc et le noir seront définies par le genre. Le genre est la couleur, et par certaines différences. Mais ce ne seront point là les premiers contraires. Comme toute couleur n'est pas ou blanche ou noire, il y aura d'autres différences. Ce seront des intermédiaires entre les premiers contraires, mais les premières différences seront ce qui fait distinguer ou confondre les objets. Par conséquent, il faut chercher d'abord ces premiers contraires qui ne sont pas opposés génériquement et voir desquels viennent les intermédiaires. Il faut nécessairement que tout ce qui est compris sous un même genre ou soit composé de parties non composées quant au genre ou ne soit pas composé. Les contraires ne sont pas composés les uns des autres. Dès lors, ils sont des principes. Quant aux intermédiaires, ou bien ils sont tous composés, ou bien aucun ne l'est. Des contraires provient quelque chose, de sorte qu'avant d'y avoir transformation dans les contraires, il y aura transformation dans ce quelque chose. Ce quelque chose sera plus et moins que l'un et l'autre des contraires. Il sera donc intermédiaire entre eux. Et tous les autres intermédiaires seront composés d'eux-mêmes. Car être plus que l'un, moins que l'autre, c'est être composé des objets relativement auxquels on est dit plus que l'un et moins que l'autre. D'ailleurs, comme il n'y a point d'autre principe antérieur au contraire, qui soit du même genre qu'eux, tous les intermédiaires seront composés des contraires. Et alors, tous les contraires et tous les intermédiaires inférieurs dériveront des premiers contraires. Il est donc évident que tous les intermédiaires appartiennent au même genre, qu'ils sont intermédiaires entre des contraires, et que tous, sans exception, ils sont composés des contraires. Chapitre 8. La différence d'espèce est la différence d'une chose avec une autre chose, dans quelque chose qui doit être commun à toutes les deux. Ainsi, si un animal diffère d'espèce avec un autre être, les deux êtres sont des animaux. Il faut donc que les êtres dont l'espèce diffère soient de même genre. Car j'appelle genre ce qui constitue l'unité et l'identité de deux êtres, sauf les différences essentielles, soit qu'il existe à titre de matière ou autrement. Non seulement, en effet, il faut qu'il y ait entre les deux êtres communauté générique, non seulement ils doivent être deux animaux, mais il faut que l'animal soit différent dans chacun de ces deux êtres. L'un, par exemple, sera un cheval, l'autre un homme. Par conséquent, c'est le genre commun aux êtres différents qui se diversifie en espèces. Il doit être à la fois et essentiellement tel animal et tel autre animal. Il y a en lui le chevalet, l'homme par exemple. La différence dont il s'agit est donc nécessairement une variété du genre, car j'appelle variété la différence du genre qui produit la différence des espèces du genre. La différence d'espèce serait alors une contrariété, mais l'induction peut justifier cette conséquence. C'est en les opposant qu'on sépare les êtres. Et d'ailleurs, nous avons montré que le même genre embrassait les contraires, car la différence parfaite, c'est la contrariété. Or, toute différence d'espèce est la différence d'une chose avec une autre chose. De sorte que ce qui fait l'identité des deux êtres, le genre qui les embrasse l'un et l'autre, est en lui-même marqué du caractère de la différence. Il s'ensuit que tous les contraires sont renfermés entre les deux termes de chaque catégorie. Je veux dire les contraires qui diffèrent d'espèce et non de genre, les êtres qui ont entre eux la plus grande différence possible, car c'est alors qu'il y a différence parfaite et qu'il n'y a jamais production simultanée. La différence est donc une opposition de deux individus appartenant au même genre. L'identité d'espèce est au contraire le rapport des individus qui ne sont pas opposés entre eux. En effet, avant les oppositions individuelles, il n'y a d'opposition que dans la division du genre, que dans les intermédiaires entre le genre et l'individu. Il est évident alors qu'aucune des espèces qui sont comprises sous le genre n'est avec le genre proprement dit, ni dans un rapport d'identité, ni dans un rapport de différence d'espèce. C'est par la négation qu'on démontre la matière. Or, le genre est la matière de ce qu'on nomme genre, non pas genre au sens de race, ainsi qu'on dit les Héraclides, mais comme ce qui entre dans la nature des êtres. Les espèces ne diffèrent pas d'espèces avec les espèces contenues dans un autre genre. Alors, il y a différence de genre. La différence d'espèce n'a lieu que pour les êtres qui appartiennent au même genre. Il faut, en effet, que la différence de ce qui diffère d'espèce soit une contrariété. Or, ce n'est qu'entre les êtres du même genre qu'il peut y avoir contrariété. Chapitre 9. On se demandera sans doute pourquoi l'homme ne diffère pas d'espèce avec la femme, y ayant opposition entre le féminin et le masculin, et la différence d'espèce étant une contrariété. Et pourquoi le mâle et la femelle ne sont pas des animaux d'espèces différentes, puisque la différence qu'il y a entre eux est une différence essentielle de l'animal, et que ce n'est pas là un accident, comme la couleur blanche ou noire, mais que c'est en tant qu'animal que l'animal est masculin ou féminin. Cette difficulté revient à peu près à celle-ci. Pourquoi telle contrariété produit-elle et telle autre ne produit-elle pas la différence d'espèce ? Il y a différence d'espèce, par exemple, entre l'animal qui marche sur la terre et celui qui a des ailes, tandis que l'opposition de la blancheur et de la couleur noire ne produit pas cette différence. Pourquoi cela, dira-t-on ? C'est que, parmi les caractères des êtres, les uns sont des modifications propres du genre, les autres n'atteignent pas le genre lui-même. Et puis, il y a d'un côté la notion pure des êtres et de l'autre leur matière. Toutes les oppositions qui résident dans la notion pure constituent des différences d'espèce. Toutes celles qui n'existent que dans l'ensemble de l'essence et de la matière n'en produisent pas. D'où il suit que ni la blancheur de l'homme, ni sa couleur noire ne constituent des différences dans le genre, et qu'il n'y a pas de différence d'espèce entre l'homme blanc et l'homme noir, quand même on leur donnerait à chacun un nom. En effet, l'homme est pour ainsi dire la matière des hommes. Or, la matière ne produit pas de différence. En effet, les hommes ne sont pas des espèces de l'homme. Ainsi donc, bien qu'il y ait différence entre les chairs et les os dont se compose tel ou tel homme, l'ensemble, différent il est vrai, ne diffère point spécifiquement, parce qu'il n'y a pas contrariété dans la notion essentielle, l'ensemble est le dernier individu de l'espèce. Kallias, c'est l'essence unie à la matière. Donc, c'est parce que Kallias est blanc que l'homme est blanc lui-même. Donc, c'est accidentellement que l'homme est blanc. Donc aussi, Ce n'est point la matière qui peut constituer une différence d'espèce entre le triangle d'airain et le triangle de bois. Il faut qu'il y ait contrariété dans la notion essentielle des figures. Mais est-il vrai que la matière, bien qu'en quelque sorte différente, ne produise jamais de différence d'espèce? N'en produit-elle point dans certains cas? Pourquoi tel cheval diffère-t-il de tel homme? La matière est pourtant comprise dans la notion de ces animaux. Pourquoi, demande-t-on? C'est qu'il y a entre eux contrariété dans les sens. C'est bien l'opposition de l'homme blanc et du cheval noir, mais leur opposition spécifique, et non pas en tant que l'un est blanc et l'autre noir. Fussent-ils blancs l'un et l'autre, ils différeraient encore d'espèce entre eux. Quant au sexe mâle et femelle, ce sont des modifications propres de l'animal, il est vrai, mais non des modifications dans les sens. Il n'existe que dans la matière, dans le corps. Aussi bien la même semence, soumise à telle ou telle modification, devient-elle ou femelle ou mâle. Nous venons de dire ce que c'est que la différence d'espèce et pourquoi certains êtres diffèrent et d'autres ne diffèrent pas spécifiquement. Chapitre 10. Il y a différence d'espèce entre les contraires. Or, le périssable et l'impérissable sont contraires l'un à l'autre, car la privation est une impuissance déterminée. Mais de toute nécessité, le périssable et l'impérissable diffèrent génériquement. Nous parlons ici du périssable et de l'impérissable considérés comme universaux. Il semblerait donc qu'entre un être impérissable quelconque et un être périssable, il n'y a pas nécessairement de différence spécifique, comme il n'y en a pas entre l'être blanc et l'être noir. En effet, le même être peut être blanc et noir simultanément s'il appartient aux universaux. Ainsi, l'homme est blanc et noir successivement si c'est un individu. Ainsi, le même homme peut être successivement blanc et noir, et pourtant, le blanc et le noir sont opposés l'un à l'autre. Mais, parmi les contraires, les uns coexistent accidentellement dans certains êtres. Tels sont ceux dont nous venons de parler, et une foule d'autres encore. Tandis que d'autres ne peuvent exister dans le même être. Tels sont le périssable et l'impérissable. Il n'y a rien qui soit périssable accidentellement, car ce qui est accidentel peut ne pas exister dans les êtres. Or, le périssable existe de toute nécessité dans l'être où il existe. Sans cela, le même être, un être unique, serait à la fois périssable et impérissable, puisqu'il serait possible qu'il n'eût pas en lui le principe de sa destruction. Le périssable, par conséquent, ou bien est l'essence même de chacun des êtres périssables, ou bien réside dans l'essence de ces êtres. Même raisonnement pour l'impérissable, car l'impérissable et le périssable existent l'un comme l'autre de toute nécessité dans les êtres. Donc, il y a une opposition entre les principes mêmes qui font, par leur relation avec les êtres, que tel est périssable, tel autre impérissable. Donc, c'est génériquement que le périssable et l'impérissable diffèrent entre eux. Il est évident, d'après cela, qu'il ne peut pas y avoir d'idées au sens où les admettent certains philosophes, car alors, il y aurait l'homme périssable d'un côté et de l'autre l'homme impérissable. On prétend que les idées sont de la même espèce que les êtres particuliers et non pas seulement les identiques par le nom. Or, il y a plus de distance entre les êtres qui diffèrent génériquement qu'entre ceux qui diffèrent spécifiquement. Fin du livre 10e.